RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, le cheminot Bruno Poncé, Barbara Lefebvre, l'enseignante, et puis Charles Consigny, l'avocat. À midi moins 20, nous vous redonnerons la parole au 32-16 pour voir si vous allez suivre l'appel à manifester devant les tribunaux. 150 manifestations sont prévues dans le pays pour dire stop, plus jamais ça, plus d'errement judiciaire. C'est ce qu'a montré l'affaire du meurtre de Liana. Il y a des appels à manifester du côté de Nantes, Bordeaux, Brest, Cannes, Dijon, Lyon, Melun, Nancy, Marseille, Orléans, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Saint-Malo, Poitiers, Quimper, Strasbourg, Valence ou encore Lille. Ce sont quelques-unes des villes où les Français sont appelés à se rassembler, à se retrouver ce soir en silence pour dire à la justice « Ne vous trompez plus, faites votre travail ». Midi moins 20 pour dire si vous allez y participer ou pas. Justement, on va en dire un mot maintenant avec notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Faut-il parler de faillite de l'État ? On va poser la question à Bruno Le Maire, qui est avec nous, l'ancien ministre de l'économie, qui revient avec ce livre, le temps d'une décision d'édition Gallimard. Bonjour, monsieur Le Maire. Bonjour.
Bruno Le Maire, est-ce que votre ancien collègue Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission ?
Non. C'est pas une chasse à l'homme qu'il faut, c'est une refondation de la justice. Charles Darmanin a fait son travail, il a présenté ses excuses, avec, je trouve, des mots très justes, face à une affaire qui est traumatisante pour le peuple français. N'importe quel père de famille, j'en suis un, ne peut que regarder avec effroi la faillite de l'État et la faillite de la justice dans cette affaire. Donc je crois que la chasse à l'homme est la pire des solutions. En revanche, qu'il faille refonder la justice, oui, c'est ça le vrai sujet.
Il y a quand même, dans cette affaire, des responsabilités individuelles. On parle peut-être de certains procureurs, de gendarmes qui n'ont pas fait, semble-t-il, leur travail.
Bien sûr. Et il faut examiner les responsabilités, mais en profiter cette fois-ci pour réellement refonder la justice, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations, qu'il y a des critiques, qu'on dit plus jamais ça, et il se passe jamais rien derrière. Donc il faut faire des choix. Moi, j'en propose 4 pour la justice française. Le premier choix, c'est celui de la responsabilité des magistrats. Lorsqu'il y a une faute, il doit y avoir sanction, exécution de cette sanction contre les magistrats qui n'ont pas rempli leur devoir, dont le premier est celui de protéger nos compatriotes, en particulier les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Le deuxième pilier que je propose, c'est une transformation complète de notre politique pénale. Que nous retrouvions une autorité du garde des Sceaux sur les procureurs.
Il faut supprimer la loi Taubira.
Il faut supprimer la loi Taubira de 2013, permettre au garde des Sceaux de donner des instructions réelles aux procureurs, pas aux magistrats du siège, aux magistrats du parquet, pour qu'il y ait réellement une politique pénale dans notre pays, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. On dit qu'il y a une politique pénale, on envoie des circulaires. Ce n'est pas des circulaires qu'il faut, c'est des instructions du ministre de la Justice aux procureurs représentant l'État, de façon à ce qu'il y ait dans notre pays une vraie politique pénale avec des priorités clairement définies. J'en vois 2, les enfants, les mineurs, priorité absolue, et le trafic de stupéfiants. Troisième pilier pour refonder cette justice, c'est les moyens, malgré tout. Quand on regarde l'état de la justice en France, même si en l'espèce ça n'est pas une affaire de moyens, on le voit bien. Mais quand on voit qu'il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a 11 en moyenne en Europe, quand on voit l'état des tribunaux, quand on voit le manque de modernisation, l'absence d'utilisation de l'IA, le fonctionnement en silo, tout ça doit être transformé en profondeur.
Alors des moyens qui ont augmenté sous la présidence Macron, mais pas suffisamment ?
Ils n'ont pas suffisamment augmenté, mais on peut rendre hommage au président de la République d'avoir sur le régalien, que ce soit sur le ministère des Armées, sur la Défense, sur la Justice, sur la Police, renforcé enfin
l'État régalien. Parce que lui, il ne veut pas entendre parler de moyens.
Parce que dans cette affaire, visiblement, la question n'est pas une question de moyens. Mais allons au bout du raisonnement. Si on veut renforcer les moyens de l'État régalien, la Police, la Justice, les Armées, il faut avoir le courage de dire que l'on fera moins sur l'État-providence. Qu'il y aura moins de redistribution sociale. Et qu'il y aura plus de force de l'État. Mon combat.
Donc plus de régalien et moins de social.
Arrêtons de faire croire aux Français, puisque nous sommes dans un moment qui précède une campagne où il va falloir poser des débats très sereinement. Arrêtons de faire croire aux Français qu'il y aura toujours plus de redistribution, toujours plus d'allocations sociales, et que dans le même temps, on pourra renforcer les moyens militaires face à la menace russe, ou renforcer les moyens de la justice pour garantir que les procédures soient exécutées plus rapidement. Parce que c'est un mensonge. Et que quand on regarde la situation aujourd'hui de nos finances publiques, il y a des choix à faire. Je les avais proposés quand j'étais ministre des Finances. Personne n'a voulu me suivre sur la réduction d'un certain nombre de prestations sociales et de la place de l'État providence.
Donnez-nous un exemple, parce que on dit toujours qu'il faut faire des économies, mais on a du mal à entrer dans le détail. Une prestation sociale qu'il faut supprimer ou raboter?
Je donne un exemple très concret. J'ai doublé la franchise sur les médicaments, ça rapporte beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut aller encore plus loin sur le prix du médicament pour réserver à ceux qui sont réellement malades la protection sociale et la protection de l'État. Et pour les médicaments de confort ou les médicaments du quotidien, accepter qu'il y ait une franchise qui soit plus élevée, ça rapporte des milliards d'euros. Et je peux vous citer d'autres exemples sur les jours de carence, sur les congés maladie, sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous devrons réduire les dépenses de l'État social pour renforcer l'État qui protège les citoyens et notamment, je le redis, les plus faibles, les enfants. Enfin, quatrième pilier, il faut simplifier la procédure pénale, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui,
la procédure pénale,
parce que vous avez une procédure pénale dans laquelle il y a encore des cas de nullité qui se multiplient parce qu'il manque une virgule ici ou il manque un document là. Simplifier la procédure pénale, c'est aussi permettre aux magistrats de faire mieux leur travail. Voilà les quatre piliers que je propose. Une responsabilité claire des magistrats, l'État qui reprend la main sur les procureurs et sur la politique pénale, des moyens pour que les choses aillent plus vite en acceptant que l'État régalien, l'État qui protège, soit aujourd'hui la priorité absolue, et une simplification de la procédure.
Bruno, bah, parce que tu voyais réagir.
Ouais, parce que moi, vous me ôtez moi d'un doute, mais c'était pas votre homonyme qui a été au pouvoir pendant toutes ces années. Moi, j'ai un vrai sujet, vous nous dites là. Moi, je vous entends, vous dites, vous avez proposé plein de choses, vous n'avez pas écouté. Bah, pourquoi vous êtes resté? Parce que là aujourd'hui, vous êtes le dépositaire d'un bilan, et le bilan en France, il est catastrophique. Là, on voit la justice, mais les services sociaux, c'est pareil. On voit les hôpitaux, c'est pareil. L'éducation, c'est pareil. Et là, vous venez, vous nous expliquez que vous auriez fait autrement. Bah, pourquoi vous l'avez pas fait? Et quand les proposés sont écoutés, pourquoi vous n'êtes pas parti? Moi, j'ai bien peur que pendant l'année qui vient, là, on voit tous les dépositaires du bilan Macron venir nous voir en disant, mais moi, si j'étais à la place, j'aurais pas fait ça. Attal a commencé. Edouard Philippe va nous faire la même. Moi, je ne comprends pas. Et quand moi, je vous dis ça, je le dis calmement, je pense que d'autres vous le diraient peut-être différemment, mais moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui il y a 60 millions de personnes qui vont vous dire la même chose. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce que vous avez été au pouvoir, parce que vous êtes le ministre de l'économie qui aujourd'hui nous explique qu'il faut faire des économies que vous n'avez pas faites. Moi je peine à comprendre. Et alors moi j'entends bien les discours, mais je vois pas du tout ce que vous êtes en train de nous raconter là.
Alors je vais essayer de vous expliquer.
Bruno répond à Bruno.
Avec le même calme, parce que les Bruno sont des gens calmes,
oui, c'est
je vais exprimer calmement.
En général.
J'ai été en général, mais en particulier aussi en l'espèce. J'ai été ministre de l'économie et des finances. J'ai été ni Premier ministre, ni président de la République, ni des fonctions qui couvrent l'intégralité de l'action de l'État. Donc j'assume tout le bilan du ministre de l'économie et des finances. On va pas revenir sur le bilan. Enfin, je rappelle que pendant 7 ans, on a quand même réussi à créer 2,6 millions d'emplois dans le pays, relancer l'industrie. Il y avait des choses qui étaient positives. Ensuite, sur les comptes publics, nous avons protégé lorsqu'il le fallait, Covid et inflation. Et ensuite, quand il a fallu revenir à la normale, là, les choses se sont un peu gâtées parce qu'il n'y a pas de consensus qui se soit dégagé entre les partis politiques et l'Assemblée nationale pour revenir sur les boucliers tarifaires, sur les protections, puis ensuite, dissolution et fin du redressement des comptes publics. Voilà l'histoire, c'est les Français qui la jugeront. Mais je veux simplement rappeler que la conviction qui est la mienne, que j'ai défendue, pas depuis des années, depuis des décennies, car malheureusement, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la vie politique, malheureusement ou heureusement. Mais en tout cas, j'ai défendu toujours les mêmes convictions. Si vous voulez un État régalien fort, de la justice qui fonctionne, des armées qui sont en mesure de nous protéger face à la menace russe, des policiers qui interpellent lorsqu'il y a le bordel dans la rue suite aux affaires du PSG, au match du PSG, où la honte succède à la gloire du PSG. Vous devrez faire des choix.
Oui, mais ce
et
que
je l'ai... toujours dit.
Oui, mais ce que dit Bruno Poncet, c'est que vous êtes comptable.
Bien sûr.
Du bilan de la présidence
Bien
Macron.
Bien sûr. Mais je rappelle que nous avons engagé des
vous
économies
avez
sur.
Sa campagne, vous avez
Bien sûr.
Un des ministres
mais
importants.
Mais je suis totalement comptable du bilan économique et financier. Et totalement responsable de 2017 à 2024.
Qu'est-ce que vous regrettez?
Mais exactement ce que dit monsieur avec justesse, c'est ce que vous dites là, c'est que nous ne soyons pas allés plus loin, c'est un des éléments.
Pourquoi? Toujours plus, toujours plus de la même chose.
Pourquoi vous n'avez pas pu aller plus loin?
C'est vrai que c'est une bonne tactique.
C'est pas toujours plus la même chose, chère madame.
Si.
C'est être capable de réinventer l'État français pour qu'il fonctionne.
Ah bah en 10 ans, ça n'a pas fait... apparemment, en 10 années, ça n'a pas suffi.
Non, bien sûr que ça n'a pas suffi. Plus. Mais sur la politique économique, sur la politique industrielle, sur l'emploi, depuis 40 ans, regardez les chiffres. Jamais le chômage n'a été aussi bas. Jamais nous n'avions autant réindustrialisé.
Il est monté à 8%, monsieur le maire.
Mais madame.
Il y a moins 20 000 emplois industriels. Les investissements étrangers, je comprends que vous saluez souvent d'ailleurs en grande pompe, Choose France, etc., les investissements étrangers sur la question industrielle, ce sont souvent des extensions de sites logistiques, des centres de recherche et développement qui sont quand même créateurs de très peu d'emplois ouvriers. Donc il faut quand même le dire. Et par ailleurs, sous votre mandat et sous votre présence, la France a quand même battu des records historiques de déficit commercial. On en est à 160 milliards d'euros de déficit en 2022, quand l'Allemagne, elle, arrivait dans la même situation critique de l'Europe, hein, à faire 80 milliards d'excédents. Donc moi je veux bien, hein, que vous avez essayé de tout faire et que vous êtes comptable, mais qu'en fait il fallait faire encore plus de la même chose, mais alors encore plus de 900 milliards de dettes publiques en plus. Moi, je ne sais pas où alors on va dans ce cas-là. Ce sont des chiffres.
Nous ne sommes pas compris. Donc, vos chiffres, pardon de le dire, notamment ceux d'emplois industriels, sont faux.
Ah non, moins 20 000 emplois industriels, 2017, c'est pas faux, non.
2024, on ne va pas faire une cale de chiffres ici, ça va ennuyer nos auditeurs. Il y a eu plus 122 000 emplois industriels. Et s'il y a une chose que l'on peut mettre à notre actif, c'est que pour la première fois depuis 40 ans, on ouvrait plus d'usines qu'on en fermait. Ça, ce sont des faits. Donc c'est la preuve que cette politique de l'offre qui soutient les entrepreneurs, qui soutient les ouvriers, qui soutient les salariés, qui soutient l'industrie, ça donne des résultats. En revanche, ce que je veux bien reconnaître, c'est que ce qui a manqué dans notre action, et qui doit être fait maintenant de toute urgence, et dont je parle dans le livre, c'est restaurer un État fort. Ce qui veut dire, un, éliminer tout ce qui aujourd'hui est du gras dans l'État, tout ce qui ne permet pas à l'État de fonctionner correctement. Les agences, les autorités administratives indépendantes,
les commissions.
Oui, mais
tout le monde dit ça, mais personne ne le fait parce que c'est impossible à faire. On a l'impression que c'est tellement ancré chez nous, cette culture de l'État qui s'occupe de tout et du coup parfois s'occupe mal des choses. On ne peut pas y revenir parce que ce que vous dites, très bien, mais d'autres le disent. Mais quand vous êtes aux affaires, ça se passe pas. Alors,
je suis désolé, on avait commencé à supprimer un certain nombre de procédures. Nous avions divisé par deux le nombre de CERFA, ces fameux certificats.
Oui, on a créé de nouvelles agences, on a créé de nouveaux hauts conseils.
Comme ministre de l'économie et des finances, avec la loi Pacte, avec la suppression des CERFA, nous avancions la bonne direction. Je vous dis simplement
qu'il faut aller plus vite, plus loin. Est-ce que l'administration n'est pas plus forte que les politiques en France, surtout? L'administration semble avoir beaucoup plus de pouvoir que vous, en fait.
Elle est plus forte. Moi, je ne rejette jamais la faute sur l'administration. C'est les politiques qui sont responsables, c'est les politiques qui sont élus. Oui. Et lorsqu'il y a un rendez-vous politique et que vous demandez le soutien au peuple français, s'il vous donne quitus pour avancer dans cette direction, vous le faites. C'est la responsabilité des politiques. En revanche, il faut savoir faire deux, trois choix prioritaires. Pas un de plus. Je dis que pour la prochaine élection présidentielle, une des priorités absolues sera de restaurer un État fort. Oui, ce qui veut dire éliminer tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas ou embourbe la capacité d'action de l'État, notamment les agences et les commissions. Deux, faire des choix prioritaires. Et je les assume, ces choix-là. Plus de régaliens, moindre distribution. Et en troisième lieu, et croyez-moi, c'est pas forcément populaire, mais c'est indispensable si on veut tenir un discours de vérité aux Français. Et en troisième lieu, un principe de responsabilité, lorsque vous avez fait une erreur, que ça n'a pas marché, vous êtes sanctionné et il faut que les ministres aient capacité d'action sur leur administration et sur leur fonctionnement.
Mais ça veut dire que c'est le président de la République qui a empêché d'aller plus loin dans la réforme ?
Non, c'est...
Non mais monsieur le maire, soyons
c'est pas le président de la République, c'est pas Trucmuche, c'est pas Tempion.
Si, parce que vous dites moi j'aurais aimé aller plus loin. Vous avez dit mais j'aurais aimé aller plus loin, plus
c'est
fort.
La majorité qui a pas suivi.
Ce sont des choix collectifs. Lorsque vous proposez en janvier 2024 la suppression du bouclier tarifaire sur l'électricité, que je vais l'annoncer aux 20h de TF1 en disant on peut plus payer, ça coûte trop cher et comme il y a moins d'inflation, ça n'est plus justifié. Est-ce qu'il y a un parti politique qui vous soutient?
Est-ce que le président vous soutient dans ces cas-là?
Oui, le président de la République, en l'espèce, m'a soutenu. Mais est-ce qu'il y a un parti politique qui m'a soutenu lorsqu'il a fallu revenir sur les dispositifs de soutien
pour la période du Covid et de l'inflation? Quand on a drogué les gens, quoi qu'il en coûte, et que tout d'un coup, on leur retire leur addiction, ils vont pas être sevrés du jour au lendemain. C'est pas un journal de 20 heures qui va les sevrer du quoi qu'il en coûte que vous avez décidé, monsieur le maire.
C'est facile de dire qu'on les a drogués, madame. Mais c'est pas vous, non, mais pardon.
Moi,
je veux bien tout entendre. On est ici pour parler en grande gueule puisque c'est le titre de l'émission. Moi, je les ai vus, les commerçants, les boulangers, les hôteliers, les PME, l'aéronautique, l'automobile, Renault, Air France, qui seraient tous tombés avec des centaines de milliers de suppressions d'emplois derrière, si on n'est pas fait le quoi qu'il en coûte. Tous les jugements sont bons. Mais moi, je peux vous dire que je défendrai avec la dernière énergie ce que nous avons fait pendant la crise du Covid, puis pendant la crise de l'inflation, puis pendant la crise de l'Ukraine.
Le problème, c'est que ça a duré trop longtemps ensuite.
Ça a duré trop longtemps, bien sûr. Bien sûr qu'on aurait dû retirer plus vite. En revanche, sur ce qui a été fait au moment de la crise la plus violente depuis 1929, de la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70, il fallait le faire.
Mais Barbara, ça a l'air de dire qu'on habitue aussi les gens, on a habitué les gens à tout d'un coup faire des chèques, pas de millions, mais de milliards.
Quand le prix de l'alimentation augmente de 20% sur la période 2022-2024 pour nos concitoyens, et que vous convoquez régulièrement, vous et d'autres, les grands patrons de l'industrie agroalimentaire, et que vous leur dites, baissez les prix. Eux, leur marge, elle a continué. Ils ont à plus 15% de marge, les industries agroalimentaires. Pendant ce temps-là, c'est 20% d'inflation pour les produits de base pour les Français.
Pardon, madame, vous ne pouvez pas me reprocher tout et son contraire.
Non, je ne vous reproche pas tout et son contraire, mais vous voyez bien que vous n'aviez pas la main sur
ensuite,
cette question-là.
Et ensuite, de me dire que nous n'avons pas assez protégé. Moi, je pense qu'on a protégé ce qu'il fallait, mais comme vous le dites très bien, quand il a fallu retirer... Mmh. Malheureusement, ça devient une habitude. Je raconte cette anecdote dans mon livre où j'essaye de me battre à l'Assemblée nationale pour retirer une aide financière particulière. Je suis battu et il y a un député socialiste qui m'envoie un petit mot. Bah, tu as été battu, c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets. Eh ben non, on donne lorsque c'est nécessaire et lorsque la crise est passée, il faut pouvoir reprendre.
Eh ben vous restez avec nous, Bruno Le Maire. Question encore à suivre. Le temps d'une décision. Le livre est aux éditions Gallimard. L'ancien ministre de l'économie fait face au GG. Il est 11h20. Vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Nous sommes avec Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Il revient avec un livre sur son parcours politique. Parcours politique, c'est ou plutôt ce que vous avez traversé en tant que ministre, notamment les grandes décisions, les sommets, l'administration, le pouvoir. Vous racontez tout ça dans le temps d'une décision aux éditions Gallimard. Monsieur Consigny.
Alors, je tiens à signaler à nos auditeurs qu'il s'agit d'un excellent livre. Bruno Le Maire écrit des bons livres et celui-là en est un autre, en est un nouveau. Je trouve que c'est bien écrit et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans et donc je veux que nos auditeurs le sachent. En même temps, je trouve que c'est un livre extrêmement français et européen, pas forcément dans le bon sens du terme. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. C'est-à-dire que c'est une très bonne copie d'excellents élèves. C'est une espèce de super rapport Mario Draghi. Vous savez, c'est ce rapport qui avait circulé beaucoup, où on expliquait ce qu'il fallait faire en Europe.
T'as compliment, parce que c'est un bon rapport.
Alors voilà, que vous citez, je crois, d'ailleurs, dedans. En tout cas, bon. Donc c'est génial, en Europe, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Hein. Mais quand il s'agit de faire, on a l'impression qu'il y a un peu moins de monde. Ça, c'est la différence que je verrais, par exemple, avec les Américains, où j'ai l'impression qu'il y a plus de doueurs, comme on dit, de gens qui agissent. Et puis, là où je trouve que... Donc ça, c'est pour la partie européenne, c'est-à-dire on est devenu un continent d'éditorialistes, quasiment. Et sur la partie française, vous voyez, vous identifiez beaucoup de causes macroéconomiques, c'est-à-dire il faut investir dans tel et tel domaine, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, tel ou tel sujet industriel, etc. Bon... Et en même temps, vous citez, parce que vous faites de la politique et donc vous êtes au contact des Français, des vrais Français, vous les citez. Et moi, j'ai le sentiment, et je le dis pas par démagogie, je le crois profondément, que les vraies solutions aux problèmes de la France et les vrais problèmes de la France, ils sont dans les citations des Français et pas tellement dans ces questions macroéconomiques. Donc, par exemple, vous citez un boucher, charcutier, qui n'arrive pas à trouver un repreneur. Et le gars s'énerve, il dit « on a du chômage, il est impossible de trouver des charcutiers ». Il tempête contre les gens qu'il faut remettre au travail, il a trop de charges et il vous dit « on subit beaucoup ». Et ben ça, je veux dire, ça, pour moi, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que vous avez été 10 ans ministre de l'économie, les charges n'ont pas baissé, les impôts n'ont pas baissé, le chômage a continué à coexister avec un problème d'offres d'emploi qui sont non satisfaites. Donc moi, je pense que les solutions pour la France, elles sont très simples, c'est travailler plus et tronçonner ce qui permet aux gens de travailler moins ou de ne pas travailler, comme les gens qui ne veulent pas devenir charcutier, ce qui est un magnifique métier, n'en déplaise à Madame Rousseau. Et je me dis, mais est-ce qu'au fond, vous n'avez pas été embourbé dans la Macronie qui, par idéologie, par essence, est condamnée au surplace. Est-ce que Fillon n'aurait pas été un meilleur président parce que lui, il voulait 500 000 fonctionnaires au moins, en moins. Et donc, est-ce que vous... Voilà, c'est une très bonne copie, mais est-ce qu'il ne fallait pas agir quand vous étiez aux manettes?
Alors ça, pour Fillon, on ne saura jamais. D'abord, merci sur les propos sur le livre.
Le petit compliment.
Exactement. Et c'est comme toujours, il y a un compliment en général.
Après, non, mais que je pense
et la critique à la fin et pose le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est-à-dire le titre du livre, c'est la décision politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus des décisions politiques à la hauteur des enjeux? Alors nous, si je peux me permettre, on en a pris des difficiles. Quand j'ai pris les décisions politiques sur la fiscalité en 2017, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, le prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'impôt sur la fortune, tout ça n'est pas très populaire. Mais j'ai tenu bon pendant 7 ans ce cap.
L'IFI, mais bon.
Mais ce cap a tenu bon pendant 7 ans, jusqu'en 2024, où on a fait une surtaxe IS, on a réaugmenté des impôts. Donc nous avons pris des décisions, y compris, je le raconte dans le livre, des décisions difficiles. Taxer les gens du numérique, les Google, Amazon, Facebook et autres Microsoft, c'est se prendre Trump bille en tête, et comme je le raconte dans le livre, Donald Trump bille en tête, c'est pas forcément simple. Mais la question que vous posez est la seule vraie question politique. Quand est-ce que les responsables politiques reprennent le goût, le sens de la décision? Et donc,
c'est pas avec une assemblée sans majorité, par exemple.
Oui, mais je donne l'exemple des comptes publics. C'est tout le monde fourmille de propositions sur ce sujet en disant faudrait faire ceci, faudrait faire cela. Il faut une procédure qui soit complètement nouvelle. Il faut pour que des décisions fortes soient prises sur les comptes publics, que le ministre des Finances puisse nommer l'intégralité de ses directeurs et sous-directeurs et que ça ne passe plus par le Conseil des ministres, qu'il ait autorité totale et directe sur son administration. Il faut qu'il ait un droit de veto contre les propositions de dépenses supplémentaires de ses collègues du gouvernement. Il faut en troisième lieu raccourcir la procédure budgétaire qui dure 2 ou 3 mois. Je propose qu'elle dure 15 jours ou 3 semaines, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, pour qu'on aille vite. Et enfin, dernier élément clé, il faut qu'on réduise strictement le droit d'amendement des parlementaires, puisque les parlementaires ne proposent que des dépenses supplémentaires. Donc réduisons le droit d'amendement des parlementaires, on réduira aussi les propositions de dépenses.
Oui. Enfin, justement, vous évoquez les Trump. Je crois que quand vous discutez avec Janet Yellen notamment et que vous lui parlez de l'inflation,
de qui il s'agit.
Bah, c'est une personne
de la finance américaine.
Et qui évoquait la question de l'Inflation Reduction Act, donc de Trump. Et vous vous en plaignez et elle vous répond à juste titre. Ben vous n'avez qu'à faire pareil. Donc justement, faire pareil, la décision, est-ce que dans votre livre, quand même, en filigrane, on a ça, c'est-à-dire que dans cette diplomatie aujourd'hui des carnivores et de l'économie et des grands carnivores, des grands carnassiers, Trump, Poutine, Xi, Modi, etc., l'Europe, c'est même pas des herbivores, c'est des brontosaures, c'est-à-dire qu'en plus, c'est les dinosaures. Mais excusez-moi, Monsieur Macron... C'est votre président. C'était la diplomatie des salons. C'est la diplomatie du verbe. C'est je m'écoute parler. La souveraineté européenne. Mais c'est, tout ce verbe-là, ce verbe verbeux, c'est lui qui fait qu'il n'y a pas de décision. Donc moi, je veux bien entendre que vous n'y êtes pour rien, mais vous l'avez soutenu. À aucun moment, quelqu'un est venu et lui dire « ça suffit maintenant, on agit au lieu de parler ». Et quand même, en filigrane, vous la critiquez, cette politique de la diplomatie de salon et du blablabla. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité.
Alors, regardons l'avenir, je partage hélas votre constat.
Ah.
J'aime bien la formule des brontosaures. Soit l'Europe se réveille, change radicalement de politique, soit elle sera bouffée tout cru par la Chine et par les États-Unis. Je pèse mes mots, elle sera bouffée tout cru.
Et l'Inde aussi.
Je donne un exemple, et l'Inde aussi, et d'autres encore. Je donne un exemple très concret, c'est l'industrie automobile. Vous voyez bien que comme les Chinois subventionnent massivement leur industrie automobile, soit vous mettez des tarifs douaniers, je peux le dire, je l'ai fait. Je suis le seul ministre de l'économie qui a réussi à imposer des tarifs douaniers à 37% sur les véhicules électriques chinois. Il faut les porter à 100%. Il faut une vraie
préférence européenne. Mais les Chinois, ils vont installer
ils sont en train
d'installer des usines en Turquie, en Hongrie. Ils passent un accord avec Stellantis qui va faire fabriquer les voitures chinoises.
Est-ce que vous croyez que si les 27 États membres, avec 450 millions de consommateurs, étaient capables de parler d'une seule voix, défiler les uns et les autres séparément devant M. Xi Jinping,
l'empereur de Chine, pour dire
une seule voix.
Mais c'est ça, on y arrive.
27 États, 450 millions de consommateurs qui disent vous n'avez plus accès au marché
européen. Chaque pays a ses intérêts, bon, monsieur le maire. Chaque pays a ses intérêts économiques. Vous croyez que les intérêts économiques de l'Allemagne, c'est les mêmes que nous? Non.
Vous avez totalement raison.
Chacun joue sa carte et chacun
sort de l'Europe telle qu'elle est ou pas. Totalement raison sur le fait que nos intérêts, quand on les regarde au niveau national, ils peuvent être divergents. Oui. Mais collectivement, notre intérêt est de nous protéger face aux surcapacités industrielles chinoises et face aux tarifs douaniers américains. Si les Européens ne sont pas capables de comprendre ça, ils seront dévorés.
Le Mercosur, on s'est couché.
Je reviens juste à l'industrie automobile. Voilà. Il faut des tarifs douaniers et il faut une vraie préférence européenne. Regardez ce qui a été voté sur la préférence européenne, ça me révolte. La préférence européenne,
vous dites, vous
elle est ouverte.
Mais vous alimentez le Rassemblement National là, avec ce que vous dites, monsieur le maire. Mais bien sûr que si.
Je dis que nous avons, mais vous savez, mon sujet n'est pas Rassemblement National ou LFI. Mon sujet, c'est la France et ce qu'on peut proposer aux Français. Il faut des tarifs douaniers et il faut une vraie préférence européenne. C'est-à-dire pas une préférence européenne qui soit élargie à la production industrielle au Vietnam ou au Canada.
Mais puisque vous parlez de la présidentielle, on va vers un second tour Mélenchon-Bardella? On y va tout droit?
Et aujourd'hui, oui, on y va tout droit. Je pense et pas être une grande pitié en annonçant ça. Je dis, posons clairement les enjeux comme on l'a fait sur la justice. Refonder la justice. Comme je l'ai fait sur l'État régalien, un État fort, ce qui suppose de faire des économies sur l'État qui redistribue des prestations sociales. Oui. Une Europe qui protège et qui assume une vraie révolution mentale pour protéger ses frontières et ses intérêts industriels et économiques.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Français n'ont pas envie de donner un grand coup de balai à ça? Il y a eu finalement du dégagisme en 2017, un dégagisme soft incarné par Emmanuel Macron, qui a renvoyé les vieux partis traditionnels de droite et de gauche dans l'opposition. Et est-ce qu'on ne va pas vivre là un dégagisme plus dur qui sera soit incarné par Bardella ou Le Pen, soit par Mélenchon?
C'est sûr que quand on voit le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon hier, et la foule qu'il a su rassembler, quand vous voyez les sondages qui veulent malgré tout dire quelque chose sur le Rassemblement National, où vous dites, voilà, on est en train d'être pris en étau entre deux forces extrêmes qui vont aller s'affronter, il y aura de place pour personne d'autre.
Quel résultat comment, du macronisme?
Comment vous desserrez l'étau? Mais moi, je ne suis pas commentateur, je suis acteur.
Alors comment vous desserrez l'étau?
Et pour moi, la seule façon de desserrer l'étau, c'est de proposer des choix clairs et radicaux aux Français, en assumant ses positions. Quand je vous dis qu'il faut revenir sur la loi de 2013 de Mme Taubira pour dire qu'il faut une chaîne de commandement dans la justice et un ministre de la justice qui donne des instructions aux magistrats, c'est une position claire. Quand je vous dis qu'il faudra réduire la redistribution sociale,
vous êtes pour le programme de François Fillon en 2017.
Je suis pour de la clarté, de la volonté, de la détermination au niveau européen.
Non, mais qui l'incarne aujourd'hui, cette volonté?
Mais avant l'incarnation, vous savez, je vois des courses de petits chevaux entre les uns et les autres, et je vois beaucoup de mollesse dans les propositions, beaucoup de confusion dans les propositions.
Édouard Philippe et moi.
Et les confusions, ça donne quoi? Ça donne des Français qui se disent, tout ça, c'est pas très clair, ça me convainc pas, ils assument pas leur position. J'assume mes positions, y compris sur des sujets difficiles comme la redistribution sociale, parce que je pense que rien n'est plus important aujourd'hui face au désordre du monde que d'avoir une armée forte, une police forte
et Édouard Philippe,
justice,
il y a une politique pénale qui soit suffisamment claire. Une fois que nous aurons posé ce constat-là, eh bien, nous verrons qui sera le mieux à même de l'incarner.
Édouard Philippe, il est trop confus, il ne va pas assez loin.
Vous n'allez pas arriver à m'entraîner sur le terrain extraordinairement glissant.
Non, mais
et des mauvais points distribués aux uns et aux autres.
Vous venez de dire qu'il fallait être clair. Maintenant, il faut être clair, y compris dans les...
Soyez clair aussi, vous-même.
Allez, Bruno.
Il faut être clair.
De la clarté.
Il faut être clair sur les idées.
Si tous les autres étaient au pouvoir, donc avant vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, mais à part RN et les filles, tous les autres étaient au pouvoir depuis 9 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les autres incarnent le bilan de Macron que vous trouvez désastreux, vous aussi. Alors vous en faites partie. Moi, je trouve que aujourd'hui, vous êtes en train de rajouter une pierre à l'édifice qu'est en train de construire les filles et RN d'un côté.
Non, je vais être très clair avec vous. Je trouve qu'il y a, dans ce que nous avons fait, plein de bonnes choses, notamment dans les secteurs qui étaient les miens. Sinon, je ne me permettrai pas d'avoir des propositions. Et il y en a d'autres sur l'apprentissage, donc sur l'éducation, qui étaient très bonnes.
L'apprentissage aujourd'hui, simplement, où on n'a plus d'argent dans l'apprentissage.
Moi, je regarde ensuite ce qui est proposé d'un côté comme de l'autre. Je vois la violence de M. Mélenchon. Je vois la violence de LFI. Au passage, moi, je n'ai jamais appelé à voter pour LFI. Jamais, jamais, jamais. Notamment législative de 2024.
Contrairement à Gabriel Attal.
Que toutes les extrêmes étaient aussi dangereuses, l'une comme l'autre. Il n'y a pas de moindre mal en politique. Un mal est un mal. LFI, comme le RN, ça n'arrangera pas les affaires des Français. J'essaye de voir lucidement ce que nous avons loupé. Parce qu'évidemment que nous avons loupé des trucs. C'est-à-dire, si on n'avait pas loupé des trucs, on n'en serait pas là.
Bah, forcément. De dette, oui.
On n'aurait pas autant de difficultés.
Ah, sur quoi vous pourriez faire un mea culpa, alors?
Et le premier mea culpa, c'est l'incapacité que nous avons eue à rétablir les finances publiques.
Ah. Ouais.
Bien sûr. J'ai proposé, à partir de 2024, des propositions, des économies, une loi de finances rectificative. On avait commencé à s'engager. Bing, le coup près, dissolution. Tout ça, ah, oublié. Ça. Bon, bah c'est forcément, vous partez, vous pouvez pas dire, regardez, j'ai laissé les choses dans l'état formidable.
C'est la bêtise présidentielle du deuxième quinquennat.
Donc, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je veux dire, si on dit on a tout bien fait, moi je vous dis, en réponse à ce que disait madame tout à l'heure qui était juste, la transformation de l'État, et on le voit dans cette affaire de justice, la question de la sécurité au quotidien de nos compatriotes, la transformation fondamentale de l'État qui aurait supposé d'abandonner des pans entiers de son action pour se concentrer sur ce qui est attendu par les gens, on l'a pas fait.
Ah, c'était le projet Fillon.
On l'a pas fait.
David Lisnard, ça peut marcher ou pas?
Mais
le maire plus, de Cannes,
aussi, contrairement à ce que dit tout le monde.
C'est Bruno Le Maire qui...
Plus il y a de têtes nouvelles qui font des propositions, qui défendent des idées, mieux c'est pour le débat démocratique. On est dans un moment... Donc, moi, j'entends tout le monde dire il faut qu'il y ait un seul candidat.
Vous serez candidat ou pas?
Il faut qu'il y ait un seul candidat.
Est-ce que vous pourriez être candidat?
Il faut qu'il y ait plein d'idées.
Mais alors, est-ce que vous serez candidat? Est-ce qu'il y aura Bruno 2017, 2027?
Nous sommes en juin, le débat d'idées doit s'ouvrir. D'accord. Et tout cela est beaucoup
trop tôt. Vous dites pas non.
Mais je dis surtout que cette obsession d'avoir un candidat unique dès le mois de juin, alors qu'il n'y a pas d'idée et pas de vision de long terme du pays, c'est complètement con. Bon, que ce qu'il faut, c'est d'abord avoir un vrai débat d'idées, savoir ce qu'on veut pour le pays, où on veut emmener les Français.
Vous dites pas non.
Et puis après, on verra qui sera le mieux placé.
Merci Bruno Le Maire. Et je conseille tout le chapitre sur l'intelligence artificielle, ce que vous appelez le labyrinthe technologique, où vous dites que nos démocraties sont en danger.
Ah, bien sûr.
Et si on ne se réveille pas, nous serons des vassaux des États-Unis et de la Chine. Et ce sera terminé pour l'Europe et nos démocraties. Merci Bruno
Merci
Le Maire. Le temps d'une décision aux éditions Gallimard. Merci d'être passé par les GG. Dans un instant, Liana. Des rassemblements prévus devant les palais de justice ce soir. Est-ce que vous irez 32-16 pour le dire aux grandes gueules?
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Bruno Poncet et Charles Consigny. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble avec vous au 32-16, bien sûr, notamment pour reparler de ces appels au rassemblement devant les tribunaux partout en France en soutien à Liana et pour dire plus jamais ça. Les appels qui sont lancés notamment par la cinéaste, par l'actrice Andrea Bescombe, qui lui-même avait été victime de viol durant son enfance.
Il est important de se réunir, il est important en tout cas que le gouvernement et les gens qui nous gouvernent constatent qu'aujourd'hui on ne peut plus tolérer ces injustices. On a toujours eu beaucoup de mal à fédérer autour des violences faites aux enfants. C'est David contre Goliath. On a le gouvernement qui dit nous on a tout fait, on a mis les budgets. Alors ce n'est pas vrai, ou alors on vit dans une dimension parallèle. Mais quand Monsieur Darmanin dit aujourd'hui je vais réunir tout le monde et personne ira en vacances avant que nous ayons traité chaque dossier, je tombe de ma chaise en fait. C'est quelque chose qu'ils savent depuis toujours.
Alors, est-ce que vous irez manifester devant les tribunaux ce soir? Est-ce que vous avez envie de faire entendre votre voix, d'être présent pour avoir une pensée pour Liana et surtout envoyer un signal au ministère de la Justice?
Il y a près de 150 rassemblements, donc un peu partout en France, devant les tribunaux, mais aussi devant le ministère à Paris. On verra si ça fonctionne, avec des associations derrière qui dénoncent, on l'a entendu, le laxisme d'une justice trop lente, qui n'écoute pas la parole des enfants. Bon, est-ce que c'est utile d'aller manifester? À quoi ça sert selon vous?
Est-ce que vous irez 32-16 pour le dire au grand gueule, Barbara? Tu pourrais y aller ce soir ou pas?
Je pourrais, oui, mais je peux pas ce soir, mais je pourrais. Mais en tout cas, je suis contente qu'il y ait cette mobilisation et que notamment des personnalités publiques s'emparent de cette mobilisation. Parce que quand il y a eu le meurtre sordide et atroce de Lola, quand il y a eu des manifestations, on nous a dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas faire des manifestations, qu'il fallait pas exprimer sa colère. Donc là, je suis contente qu'enfin... les familles, les Français puissent exprimer leur colère et le dire publiquement et qu'on ait enfin un soutien un peu plus large qu'à un certain moment. Donc peut-être que effectivement, comme l'a dit le maire d'ailleurs, il a parlé très justement, je vais vous dire qu'il y a bien des hommes politiques qui feraient bien de prendre exemple.
Le maire de Florence, ouais.
Alors, le maire de Florence, sans étiquette, je peux vous dire que ça, c'est des hommes politiques et des maires de terrain à l'ancienne. Il a bien dit que l'IANA soit l'affaire, non pas qui fait déborder le vase, mais qui fait renverser le vase. Donc oui, je pense que pourquoi pas, si les Français ont envie d'exprimer leur colère, qu'ils l'expriment, parce que cette colère, elle gronde depuis des années, depuis Elias, depuis Lola, depuis Philippine et depuis Maëlys aussi. Parce que
d'ailleurs, la maman de Maëlys
a
posté un message de soutien à la famille, à la fois de Laetitia, mais aussi en faisant référence à Lola.
Et elle a raison de rappeler que Nordal, le Landais, d'abord, il était quand même identifié, connu aussi avant, hein, mais bref, et que aujourd'hui, lui, il est en prison, et que lui, il vit dans le pays des droits de l'homme et la prison des droits de l'homme. Il a droit à des visites, il a même eu le droit de faire un enfant en parloir, dans des unités de vie familiale, et j'en passe, c'est des meilleurs. Moi, je suis pour que ces gens-là, excusez-moi, n'aient plus le droit à une vie paisible et tranquille, même en prison. Parce que ça aussi, ça suffit. Les Nordal le Landais et tout et les futurs Jérôme Barella et la Dabia Benkired et j'en passe et des meilleurs, eux ils ont une vie, alors bien sûr ils sont pas en liberté, encore heureux, parce que ils ont pas été reconnus irresponsables pénalement. Il y en a d'autres, les irresponsables pénalement, ils sont en goguette et ils vont récidiver aussi, parce que ça aussi on les oublie, tous ceux qui sont soi-disant irresponsables pénalement et qui sont dehors. Donc moi oui, je suis pour que les Français expriment leur colère, et il est temps qu'ils l'expriment,
Bruno.
Et il y aura 2027 aussi pour l'exprimer.
Et en fait, c'est très important que ces rassemblements-là existent et qu'il y ait beaucoup de monde, parce que ça permettra de montrer au gouvernement que ces effets d'annonce comme fait Darmanin, que ce sont 10 000 cas traités en l'espace de 3 semaines, c'est que de la parlotte, et que les gens veulent vraiment une réforme, veulent vraiment un changement. Et surtout que ce qui vient de passer là, qui est au départ qu'un fait divers, malheureusement, qui est quand même la conséquence d'une faillite de l'État, ne soit pas après effacé par une Coupe du Monde ou par des vacances d'été, tu vois. Et que quand on arrive au mois de septembre, d'ailleurs, on repart sur autre chose, et un soi-disant budget à construire et tout, et que cette gamine aujourd'hui soit morte.
Alors
pour
ça,
rien.
Ça va
encore
être
une
intéressant
fois.
Parce que dans le budget, il était prévu qu'on s'attaque un peu à la justice, parce que le pauvre Le Cornu, avec son budget à 5% qui ne tiendra pas, parce que avec la crise, donc il se prépare à faire un budget très compliqué. Et là, on va voir justement quels sont les arbitrages. Est-ce qu'il va pouvoir toucher la justice comme il semblait vouloir le faire?
Parce que gouverner, selon les faits divers, il faut que ça s'arrête aussi, en fait. Et que là, ce soir, qu'il y ait du monde pour montrer.
Il ne faut pas de loi aussi émotion.
Non, parce qu'à un moment donné, voilà, et là, il y a quand même que quelque chose à faire. Et puis, je trouve que devant les palais de justice, ok, mais il y a peut-être aussi devant les commissariats et devant les gendarmeries, parce que au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, que en fait les gendarmes n'ont pas fait les enquêtes pour lesquelles ils étaient diligentés.
Après, le gendarme, il est sous la responsabilité d'un procureur quand il fait une enquête. Hein.
Ouais. Mais est-ce que le gendarme est sous la responsabilité du procureur quand il dit à la dame que sa fille a été violée, il lui dit écoutez, si vous continuez, je vais porter plainte contre vous.
Mais ça, ben,
voilà. Donc il y a quand même aussi de la formation à faire avec ces gens-là, comme les mêmes.
Ça, c'est la responsabilité.
Ou comme les femmes battues et violentées par leur mari vont au commissariat et qui meurent 15 jours plus tard parce qu'on les a pas écoutées. Il y a quand même du travail à faire aussi là-dessus, et c'est deux exemples.
Charles, c'est important d'aller manifester, ça va devant les tribunaux?
Oui, moi je ne suis pas très manifestation, mais oui, je le comprends en tout cas. En même temps, comme nous l'a dit à l'instant notre invité Bruno Le Maire, il faut choisir. C'est-à-dire, soit on veut avoir effectivement un État qui est opérationnel dans ses fonctions régaliennes, et on est obligé de réduire la voilure sur les dépenses sociales. Dépenses sociales qui portent mal leur nom d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que ça n'est que l'assistance aux plus démunis. Mais c'est pas ça, c'est le système de l'État-providence qui est incroyablement dispendieux. Soit on veut continuer avec ce système sans le réformer, et dans ce cas-là, faut pas s'étonner si on a plus de justice, plus d'armée, plus d'université, plus d'école, plus rien. Je pense qu'on doit choisir. D'ailleurs, posons-nous la question, comment se fait-il par exemple que le système policier et judiciaire américain soit en réalité plus opérationnel que le nôtre, alors qu'il y a beaucoup moins de dépenses publiques aux États-Unis proportionnellement à la France? Aux États-Unis, la justice est rapide, par exemple. Elle condamne pas, elle commet pas des erreurs tous les matins. Au contraire, elle est très démocratique. Il y a des jurés populaires. Moi, je trouve que c'est un très bon système. Il y a un très gros équilibre entre l'accusation et la défense. Bon,
si je me souviens bien, les procureurs sont élus aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Oui. Il y a moins de réduction de peine aussi. Puis les peines s'accumulent.
Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les États américains.
Mais toujours, c'est pas forcément une mauvaise idée.
Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, non mais
parce que c'est le procureur.
Ce que je veux vous dire, c'est que à ses électeurs, par exemple. C'est que aux États-Unis où vous n'avez pas 60%
réélu.
Où les dépenses publiques ne se haussent pas à 60%, ne se hissent pas à 60% du PIB, il y a pas le même système aux États-Unis. On n'est pas dans un régime communiste. Et néanmoins, ils ont des services régaliens qui marchent mieux que les services français. Mais posons-nous la question, comment ça se fait? Voilà. Je pense que ça s'explique aussi parce que nous, on gaspille notre argent et parce que il y a une espèce de culture de l'irresponsabilité de certains fonctionnaires aussi.
Est-ce que vous irez manifester ce soir? On a posé la question sur... sur les réseaux sociaux, manifester devant les tribunaux. Alors c'est non à 62%, oui à 37,8%. Mais je pense que c'est plus un non pour dire à quoi ça servirait finalement. Est-ce que ça assure que ça fasse boucher les choses. On se retrouve demain avec les grandes gueules aux habitants, Joël Dagosséry, Didier Giraud. En attendant, la discussion, le débat, ça continue sur RMC, RMC Story, avec Estelle Denis. Pour Estelle Midi, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Ben, on va continuer à parler du décès de la petite Liana. Faut-il que Gérald Darmanin démissionne? C'est en tout cas ce que souhaite Mathilde Panot, la chef de file d'LFI. Le garde des Sceaux doit-il démissionner? On se posera la question dans un instant. On parlait d'argent mal utilisé. Ben, justement, on sait que la France est la championne d'Europe de la taxe. 348 taxes en France, personne ne fait mieux, il n'y en a que 60 en Allemagne. Est-ce qu'on est devenu fou justement avec toutes ces taxes? On en parlera à midi et demi. On parlera également de ces Français nombreux qui vont devoir restreindre leur budget pour partir en vacances. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire des sacrifices pour partir en congé cet été? Bah, dites-nous sur quoi vous avez renié, quels sont vos arbitrages. Ça, ce sera à 13h30. Et puis, sédentarité, obésité, faut-il faire marcher nos enfants? L'OMS recommande de faire marcher, faire une activité physique aux enfants de 1 à 4 ans, 3 heures par jour d'activité physique, modérée et intense, et jamais plus d'une heure dans une poussette. On voit aujourd'hui les enfants qui sont en vélo cargo, qui sont poussés,
les enfants.
Savez, dans leur globeur, etc. Nos enfants ne marchent plus. Est-ce qu'il faut faire rebouger nos enfants, les laisser courir dans le jardin, salir, aller à l'école à pied sans être là derrière leur dos à les surveiller? Ben, ça, c'est ce qu'on... on en parlera en tout cas à 14h. Très bon tuto. Est-ce qu'il vaut mieux lire un livre ou voir le film?
Lire un livre.
Non, mais attends, voir le film du livre?
Exactement. Par exemple, Harry Potter, vous voulez lire le livre?
Le livre est bien meilleur. Ah,
voir le film.
Le livre est incomparable.
Harry Potter, l'adversaire d'Emmanuel Carrère, est-ce qu'il vaut mieux lire
le livre? Le livre est meilleur.
Quand c'est de la littérature, il vaut mieux lire le livre.
Oui, mais qui dit quand c'est du bullshit?
Parfois, il y a des livres qui sont
pas terribles. Le dernier Ozon, L'étranger, moi j'ai adoré le livre, mais le film est très beau. L'étranger de Ozon.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle. Bonne émission, on dirait jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.